mais pourtant, ainsi va la vie comme un invité mystère.
Irène Finkel, bonjour, bienvenue dans l'émission Ainsi va la vie. Aujourd'hui, je reçois l'acteur, le chanteur, mais avant tout l'homme, Bruno Puzzulu. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Bruno, pour démarrer cette émission, j'ai fait un condensé d'informations trouvées sur le net. Mais vous avez joué dans beaucoup de films, beaucoup de pièces, alors je n'en cite ici que quelques-uns et quelques-unes. Parce que vous avez une carrière qui est déjà très longue, riche, et d'autre part, aujourd'hui, c'est le petit garçon, l'adolescent et l'homme qui m'intéresse et dont nous allons parler. Vous êtes d'origine italienne, vous passez votre enfance en Normandie. Attiré par le foot et les arts martiaux, vous choisissez finalement les planches et entrez en 1990 au Conservatoire national d'art dramatique, avant d'intégrer, de 1994 à 2002, la Comédie française. Vous y retrouvez d'ailleurs un camarade de l'université de Rouen, Philippe Torreton. Celui-ci vous présente à Bertrand Tavernier, qui fait de vous un des jeunes criminels de l'APA, le film qui vous révèle en 1995. Après quelques rôles secondaires, vous faites en 1996 une composition très remarquée de provincial paumé dans Les aveux de l'innocent de Jean-Pierre Améris. Nommé pour ce film au César du meilleur espoir masculin, vous décrochez cette récompense 2 ans plus tard, grâce à votre rôle de séducteur dans « Petit désordre amoureux ». De plus en plus sollicité, vous apparaissez notamment dans le drame social « Une minute de silence » et la comédie « Pourquoi pas nous ?» en 1999.
Pourquoi pas moi ?
Pardon, effectivement, « Pourquoi pas moi ?» en 1999. C'est Jean-Luc Godard, à qui vous vouez une grande admiration, qui vous fait tourner dans son film poème « Éloge de l'amour » en 2001. Vous prenez également part au succès populaire de Michel Bougenat, Père et Fils, en 2003, dans lequel vous campez un des enfants de Philippe Noiret. Donnant la réplique à votre vieux complice Philippe Torreton, dans Monsieur N, en 2003, vous retrouvez l'année suivante le cinéaste qui vous a fait débuter, Bertrand Tavernier, pour Oli Lola. Sur les années suivantes, on vous retrouve dans différents films, téléfilms et pièces de théâtre. En 2010, vous sortez un album de chansons dont vous écrivez la majorité des textes. Puis, vous continuez à jouer dans divers films, sans oublier bien sûr le théâtre. Aujourd'hui, Bruno, vous avez 50 ans et nous y reviendrons. Mais pour le moment, revenons aux années 1970. Quel petit garçon étiez-vous, Bruno ?
Un petit garçon un peu rêveur, comme ça, qui n'aimait pas aller à l'école, qui s'accrochait au grillage de l'école et qui, à la récréation, regardait les gens passer dans les voitures et qui rêvait et qui jouait au foot à la récréation, qui voulait devenir footballeur professionnel, qui ne partait jamais en colonie de vacances, qui restait toujours avec ses parents et ses deux frères, qui partait en Sardaigne l'été quand le papa faisait un peu un emprunt à l'usine pour pouvoir remplir la voiture de cadeaux, la galerie de cadeaux, et arriver en Sardaigne et dire voilà, j'ai de quoi donner des cadeaux à tout le monde. C'était ça ma vie. Les longs étés comme ça, quand je restais en Normandie au soleil, à penser un peu, à rêver une vie prochaine peut-être.
Trois garçons, vous êtes l'aîné ?
Non, trois garçons, je suis le plus jeune.
Vous êtes le
Mario,
plus jeune.
Luigi et Bruno, moi, le plus jeune.
Donc une maman au foyer ?
Une maman au foyer, un père qui travaillait dans l'industrie du papier, l'industrie papetière. Oui, une maman qui nous a élevés. Mon père est arrivé d'Italie, il a travaillé à la ferme. Et puis ensuite, c'était l'usine.
Alors, il est arrivé d'Italie, il s'est marié avec une Française ?
Il s'est marié avec ma maman, oui, qui est Française, qu'il a rencontrée au cinéma. Vous voyez ? C'est peut-être un signe.
Oui, c'était un signe, effectivement.
Voilà, et ils se sont mariés, ils ont eu 3 enfants. J'étais prêt à dire 3 beaux enfants, mais ça aurait été prétentieux.
Et c'était pour vous des années, vous en gardez un souvenir d'insouciance ?
Pas vraiment d'insouciance, parce que vous savez, l'enfant sait très bien quand il naît dans une famille modeste. Donc quand on est dans une famille modeste, on a très vite la sensation que les parents n'ont pas trop d'argent, de ne pas devoir demander telle ou telle chose aux parents. Mais si ce n'était pas complètement l'insouciance, En tout cas, c'était le bonheur total. Et pour moi, le meilleur de ma vie est passé. Le meilleur de ma vie, c'était vraiment l'enfance, l'adolescence, quand je pouvais dire « ils sont tous là ». Aujourd'hui, je ne peux plus dire « ils sont tous là ». Donc, à partir de ce moment-là, le meilleur de ma vie est passé. Il y a des bons moments qui arrivent encore, mais...
Le cocon familial.
Oui, le cocon familial, le papa n'est plus là, donc il y a les frères, la maman, mais évidemment, plus on vieillit soi-même, plus on est dans un monde finissant, et c'est une perte de sens, une perte de sens, même encore une fois, s'il y a des moments très heureux, évidemment, mais ce n'est pas au même niveau.
Donc, vous êtes ce petit garçon qui rêvait, qui est très sportif.
Très sportif, oui, le foot, les arts martiaux. Mon papa m'emmenait au foot et à la boxe, même tout petit. Donc, de ce goût du sport qu'avait mon papa, eh bien, je l'ai aussi. Et tous mes frères l'ont aussi.
Vous grandissez, vous êtes adolescent. Quel adolescent vous êtes ?
Un adolescent qui sort avec les copains, mais jamais des groupes importants. C'est toujours deux, trois copains. Alors, il y a toujours le sport, très important, le foot, les arts martiaux, toujours. Et puis, le week-end, les sorties avec les copains. Et puis, les filles, évidemment, toujours... les femmes, enfin c'était les filles à cette époque hein, plutôt.
C'était des jeunes filles, oui.
Voilà, mais c'était dans un village, donc tout le monde se connaissait. Donc les filles, on les regardait, on en parlait, mais voilà.
Ça s'arrêtait là. Est-ce que vous avez la double nationalité ?
Non, je n'ai pas la double nationalité, non.
Vous parlez couramment l'italien ?
Pas du tout. Pas du tout, je baragouine un peu, j'essaie de me faire comprendre, je comprends un peu, mais non, parce que...
Votre papa ne parlait pas italien à la maison ?
Non, c'est-à-dire que quand on allait en Sardaigne, mon papa, quand on lui parlait italien en Sardaigne, il répondait en sarde. Il voulait que la langue se perpétue, donc voilà, il parlait sarde. Et puis à la maison, mon père, quand il est arrivé en France, il a certainement souffert un peu du racisme, bien qu'à nous, ils nous disent le contraire. Quand il nous parlait, il nous disait « Non, non, moi j'ai été très bien accueilli, j'ai été aussi accepté en jouant au foot dans une équipe, il n'y a jamais eu de problème. » Mais plus tard, en travaillant l'été dans l'usine où travaillait mon papa, parce que pour gagner un peu d'argent, je travaillais à l'usine tous les étés, j'ai su ce que mon père avait de temps en temps supporté des autres et qu'il ne nous disait jamais à la maison. Par fierté ou pour nous protéger d'une peine qu'on aurait pu avoir en le sachant. Donc, à la maison, il a eu ce réflexe de ne pas parler italien. De ne pas parler italien. Et donc, voilà, mes frères parlent mieux que moi.
Avec votre nom, bien sûr, à consonance italienne, est-ce que vous-même, à la primaire, au collège ou au lycée, vous avez été traité, je ne sais pas, de Rital ou de Macaroni, comme on a pu l'entendre certaines fois?
Oui, c'est arrivé, alors pas, sûrement pas avec la même violence, mais mon frère Mario, avec lequel je travaille en ce moment sur les Rital de Cavana, me disait que la première fois qu'il s'est battu, il a le souvenir que c'était dans la cour d'école, parce qu'on l'avait traité de Rital. Et oui, c'était un nom qui n'avait pas la consonance française. Donc oui, c'est arrivé. Mais bon, ça n'avait pas la même violence que quand papa
c'était
est
pas
arrivé.
Une souffrance.
C'est toujours une souffrance. La bêtise humaine apporte toujours de la souffrance. Mais il y a des niveaux de souffrance. Ce que les Italiens ont vécu à la même époque, mon papa qui est décédé à 91 ans est arrivé en France, l'après-guerre, tout ça, c'était terrible. C'était terrible.
Vous dites que vous avez été un petit garçon rêveur, vous grandissez, vous sortez avec les copains, les filles, ça reste encore...
C'est nébuleux.
C'est un peu encore de loin, on va dire. Est-ce qu'il y a des moments adolescents pour la lecture ? Est-ce que c'est quelque chose d'important à ce moment-là, la lecture pour Bruno Butelu ?
Alors, la lecture, elle se fait par les 33 tours dans lesquels il y a les paroles des chansons. Je lis beaucoup les paroles de chansons, je chante. Elle se fait aussi parce que je suis meilleur dans les matières littéraires. Donc, mais je n'étais pas un grand lecteur. J'étais plutôt, j'avais l'appel rentrant de l'école du stade de foot. On jouait sur du ciment. Hop, avec les copains, c'était toujours le stade de foot, le bistrot du coin. Où souvent il y avait mes deux oncles qui étaient censés me surveiller, mais je crois que c'est plutôt moi qui les surveillais parce qu'ils buvaient un petit coup. Et puis le gamin acceptait au bistrot du coin, même si j'étais jeune, je jouais au baby-foot, au flipper, les gens me donnaient de l'argent pour mettre les pièces dans le jukebox. Donc c'est moi qui sélectionnais la musique qu'il y avait dans le café. Voilà, c'était... C'était ça, ma vie. Vous savez, c'était un petit village, donc il n'y avait pas beaucoup de choix.
Oui, vous dites que c'est un petit village. Alors, est-ce que mon impression est bonne sur ce que vous dites ou est-ce que je me trompe ? On a vraiment l'impression que vous viviez en autarcie. Adolescent, on a envie de découvrir le monde. Est-ce que, malgré tout, vous aviez une fenêtre d'ouverture sur l'extérieur, est-ce que vous vous intéressiez ? Est-ce que vous aviez envie d'aller ailleurs en vacances qu'en Sardaigne ? Est-ce que vous avez pris un sac à dos à un moment ou à un autre pour faire du stop et voyager sur les routes ?
Non, j'ai jamais été attiré par ça. Pour moi, le rêve, c'était le rêve, c'était l'imagination. Mais le bonheur, le plus total, oui, c'était d'aller en Sardaigne. Je voulais pas aller ailleurs, moi. Quand on avait assez d'argent pour y aller, c'était le bonheur d'y aller, de voir ma famille en Sardaigne, ma grand-mère qui préparait les pâtes, qui faisait cuire son pain dans le four, qui me faisait découper les raviolis avec la petite roulette. C'était ça. Et puis, rester avec mes parents et mes frères. J'ai jamais pris un sac à dos, dire j'ai envie de découvrir le monde. Non, moi, ma grille de lecture du monde, c'était mon village de 1000 habitants, toute une ville, et puis mes parents... Et mes deux frères, c'était ça le monde pour moi. Alors, on a beaucoup d'écarts d'âge entre mes frères et moi. Donc, ils regardaient mes leçons. C'est plutôt eux qui regardaient tout ça. Mon papa n'avait pas l'instruction, il ne maniait pas bien le français pour s'occuper de moi comme ça. Mais je ressentais l'amour de mes parents.
Oui, et puis c'est palpable dans votre discours. On ressent tout l'amour que vous avez reçu sans problème. Comment se passe votre scolarité ?
Bien, j'étais un très bon élève. Oui. J'étais, je crois naïvement, mes parents me disaient « il faut que tu sois premier de la classe ». Et puis alors moi, j'étais premier de la classe parce que je me disais « voilà, c'est quelque chose... » que mes parents me demandent. Et puis, mes parents, ils sont gentils avec moi. Et puis alors, je regardais les films à la télé, dans la cuisine. On avait la télé dans la cuisine. Je m'endormais sur les genoux de ma mère. Mais j'étais jamais sommé d'aller me coucher. Non, j'avais ma petite vie, j'étais bon élève. Je m'endormais devant les films qui me faisaient rêver. Parce qu'on n'avait pas non plus la culture du cinéma ou du théâtre. Peut-être par manque d'argent aussi. Donc, on regardait beaucoup la télé. On se levait, vous savez, c'était le moment où le papa, il allait derrière la télé quand il y avait des rayures comme ça. Et il disait, là, ça va ? L'image, elle est bien, là ? On disait, oui, touche plus ! Touche plus ! Mais on t'avait dit de pas toucher.
À quel moment vous décidez de devenir acteur ? Quel est le déclic ?
Vous savez, je me méfie beaucoup. Des gens de ma profession, quelquefois, disent « Ah, j'ai eu la vocation ». Ça ne veut rien dire, la vocation. Je crois qu'il y a une belle histoire entre Louis Jouvet et une jeune femme qui, à 18 ans, lui disait « Monsieur Jouvet, j'ai la vocation ». Jouvet lui disait « Vous n'avez pas la vocation, mademoiselle. Vous verrez, dans 20 ans, dans 30 ans, si vous continuez le métier, malgré les peines, malgré les chagrins, malgré les succès, les insuccès, les fidélités, les infidélités, les drames de la vie, si vous continuez le métier, là, dans 30 ans, vous pourrez dire « J'ai la vocation ». Mais la vocation à 18 ans, c'est quoi ? C'est une fée qui se penche sur un berceau quand on est petit, qui dit « Toi, tu seras menuisier, toi, tu seras acteur ». Moi, j'ai senti quelque chose parce que, pour la première fois avec mes parents, nous sommes allés au théâtre. Au théâtre, pourquoi ?
Quel âge vous aviez ?
J'avais 16 ans.
Oui.
J'ai un frère, à cette époque-là, quand j'ai 16 ans, qui est instituteur. Mon frère Mario, et qui fait partie d'une troupe amateur. Non, une troupe professionnelle, d'ailleurs, à l'époque. Il prend une disponibilité comme instituteur et il fait du théâtre de manière professionnelle. Et nous allons le voir jouer. Et là, alors, c'est, pour moi, c'est complètement nouveau. Parce que j'allais bien au théâtre avec l'école, mais avec l'école, je faisais le couillon comme tout le monde dans la salle et je ne regardais pas la pièce. Et là, c'est mon frère qui est sur scène et là, il se passe quelque chose. Et ensuite, j'ai mon baccalauréat, je vais en fac de lettres modernes et puis je décide de prendre des cours de théâtre. Et c'est là que tout se fait. Je dis à mon professeur... moi, j'aimerais entrer dans la plus grande école de théâtre. Ah, il me dit, attends, tu viens d'entrer, là, déjà, ça se prépare.
Dès le départ de la faculté de lettres.
Ouais. Il me dit, ça se prépare. Et puis, le Conservatoire national, il y a 2000 candidats, il y a 15 garçons de prix, il y a 15 filles prises, et il n'y a pas beaucoup de provinciaux. Et bon, je décide quand même, pendant 4 ans, de préparer cette entrée au Conservatoire national. Et je suis reçu, et voilà. Mais c'est en voyant, pour répondre à votre question, en voyant mon frère sur scène, que le déclic s'est fait.
Vous vous souvenez de la pièce ?
Oui, ça s'appelait « La nuit des prédateurs ». Et puis, il y a aussi un autre déclic, c'est que je me rappelle, en CM2, je vois sur le cahier du jour d'un copain un autocollant. Et je lui dis « C'est qui, lui ?» Il me dit « Lui, il est très fort. Il s'appelle Bruce Lee. » Et là, je demande à mes parents de m'emmener au cinéma pour voir tous les films de Bruce Lee. Mais que ça, que ça. Et puis, je demande à la dame du cinéma de ma ville, près de la plus proche de mon village, de me donner les photos, les affiches. Et là, je deviens aussi hanté par cette personne, Bruce Lee. Je collectionne tous les magazines... Et c'est vraiment une passion. Et certainement, lui m'a donné le goût au théâtre, et au cinéma, et mon frère aussi au théâtre.
Vous arrivez donc à Paris, au conservatoire. Comment ça se passe ? Vous ne vous sentez pas... Alors, je suppose que d'un côté, vous avez l'excitation d'y rentrer, et de l'autre côté, vous quittez ce noyau familial tellement important et tellement équilibrant pour vous. Comment ça se passe à ce moment-là ?
Mais pour répondre à votre question, je fais un petit retour. Quelques années avant, c'est que quand je suis en fac de lettres modernes, je descends parfois de la fac qui est en hauteur, dans la ville à Rouen, et je vais voir les cars qui s'en vont et qui partent dans ma ville. Et je les regarde. Et parfois, j'en peux plus, j'en prends un, même en pleine semaine, pour rentrer chez mes parents. Parce que c'est difficile, l'éloignement. Et quand je suis à Paris, au conservatoire, c'est très difficile aussi. Et à un moment dans l'année, je dis à mon professeur Philippe Adrien, « Monsieur Adrien, je crois que je suis fait pour travailler en usine comme mon père, pas pour faire du théâtre. » Et Philippe Adrien me dit « Va au bout de l'année et on verra après. Crois-moi, continue encore un peu. » Et tu décideras à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, alors, on passe les travaux d'élèves et la Comédie française me propose, pendant mon conservatoire, d'entrer comme stagiaire à la Comédie française. Et alors, évidemment,
c'est formidable.
Je commence à gagner de l'argent, je peux prendre une chambre à Paris. car avant, je fais les allers-retours tous les jours Paris-Rouen, Rouen-Paris.
Ah oui ?
Donc, quand je répète tard le soir, le dernier train est à 22h09. Quand je répète tard le soir, je mens aux autres, par fierté. Je ne dis pas que je n'ai pas de chambre à Paris. Et quand il n'y a plus de train, alors je zone un peu dans Paris. Mon pote Philippe Torreton, qui est à Paris de temps en temps, me dit « Mais quand tu ne peux pas rentrer, appelle-moi et viens dormir chez moi. » Mais il a une copine et tout, et moi je suis gêné, on ne peut pas toujours à la dernière minute, à 23h, minuit, dire allô. Donc je zone un peu dans Paris. J'avais un placard au conservatoire avec serviettes, vêtements, et je dis à Madame Notre-Dame, la concierge, tôt le matin, quand je rentre au conservatoire, après avoir zoné toute la nuit dans Paris, « Madame Notre-Dame, je vais dormir un peu dans le théâtre, vous dites rien à personne et vous me réveillez pour les cours. » Alors, elle était très gentille, elle venait me réveiller, et hop, moi je faisais semblant de venir, de sortir de mon appartement et d'arriver au cours. Donc ça, c'était une période difficile. L'entrée à la Comédie-Française m'a permis de gagner de l'argent et d'avoir un appartement à Paris.
Alors, effectivement, vous dites que c'était une période difficile parce qu'il y avait...
Belle période maintenant,
quand j'y repense. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que l'homme qui a 50 ans aujourd'hui, quel est le regard que vous portez à ce jeune homme de 18-20 ans ? Est-ce que ce jeune homme a quand même de l'insouciance à ce moment-là ?
Non, pas de l'insouciance parce que... Vous savez, une nuit dans Paris, quand on s'amuse, c'est court. Une nuit dans Paris, quand vous attendez et que les endroits se ferment, que les gens qui zonent un peu se regardent. Heureusement, j'ai été sportif à cette époque-là. Mais il n'y avait pas... J'ai jamais, je crois, été insouciant. J'ai été heureux, mais l'insouciance, pas vraiment. Pas vraiment.
Est-ce que... Quand vous étiez au conservatoire, vous aviez quand même un sentiment d'insécurité. Je ne parle pas par rapport à votre famille, bien évidemment, même si elle était un petit peu loin. Je parle par rapport à votre avenir.
Oui, d'insécurité parce que... alors, je ne disais pas à ceux du conservatoire, à ceux de ma classe, que je n'avais pas d'appartement. Et je ne disais pas à ma famille que je ne pouvais pas rentrer tous les soirs à Rouen, que je n'arrivais pas à avoir mon train tous les soirs parce qu'ils se seraient inquiétés. Et je savais que financièrement, ils ne pouvaient pas intervenir. Donc, mon père, il était ouvrier à l'usine. Il s'est coupé des doigts sur sa machine. Je ne pouvais pas lui demander le prix d'un appartement. Donc, l'insécurité, oui, aussi, parce que je me disais à un moment, bon, tu es rentré au conservatoire, mais maintenant, parmi tous les comédiens... Qui va bien avoir l'idée de te payer, toi, pour jouer au cinéma ou au théâtre ? Ça me paraissait complètement improbable. Mais complètement, complètement.
Et c'était inquiétant ?
Oui, c'est inquiétant. Parce que les parents, évidemment, quand je leur ai annoncé que je voulais être comédien, ils m'ont dit, ils ne m'ont jamais empêché, ils m'ont toujours soutenu. Mais au début, ils m'ont dit, mais tu crois que tu ne ferais pas mieux de suivre tes études à la fac parce qu'il n'y a personne à la maison, on ne connaît personne. Toujours ce sentiment qu'il faut connaître, qu'il faut un peu être pistonné. Donc voilà, oui, je me disais, mais comment je vais faire ? Comment je vais faire ?
Bruno, je vous propose tout de suite une première pause musicale. Et alors vous allez me donner le nom du chanteur de votre choix et le titre de la chanson parce que je vais mal le prononcer.
Le chanteur, c'est un chanteur italien, Adriano Celentano, et Il tempo se ne va.
Da dove è sbucato, che impressione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu,
14 anni o un po' di più. La tua Barbie è da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato, e vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su, e tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. E tanto il tempo se ne va, cosa speciale. Il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi, e tra poco la sera uscirai, quelle sere non dormirò mai. Intanto il tempo
j'adore. Pourquoi ce choix, Bruno ? Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette chanson ?
Oh, elle évoque l'enfance. À la maison, on écoutait des chansons italiennes. Donc oui, Adriano Celentano, c'est un chanteur que j'aime beaucoup. Il a beaucoup évolué dans la musique. Il est plutôt un peu, maintenant, un peu moins remuant, mais toujours avec autant de talent. Et puis, le temps qui passe, moi, je suis très, très mélancolique, très, très nostalgique. Et donc, j'aime beaucoup cette chanson.
En 2007, Bruno, vous avez 40 ans. Vous en êtes où à ce moment-là ?
40 ans, je suis en plein dans mon métier. Je travaille beaucoup au cinéma, au théâtre. Et puis, je suis heureux puisque tous les miens sont autour de moi. Donc, non. 40 ans, ça a été un coup dur, quand même, de prendre 40 ans. Je crois que ça m'a... Poum, j'étais un peu sonné, quand même, de prendre 40 ans. Moi, j'ai horreur de vieillir. C'est, je trouve pas ça bien, pour rien. Bon, alors, il y a des gens qui se consolent, mais c'est bien de vieillir. Non, moi, je trouve ça... bien pour rien, on perd les gens qu'on aime, on est un peu patraque de temps en temps, on a une tronche qui n'est pas terrible. Vous savez, j'ai toujours eu comme repère le sport. Et à 40 ans, en sport, vous êtes vieux, très vieux. À 35 ans, quand j'ai eu ma licence vétéran au foot, à 35 ans, j'ai dit, mais c'est pas possible. Je suis déjà vétéran. Je suis comme ceux que j'allais voir jeunes, que je disais, je vais voir jouer les vieux du matin. Ah, et moi, j'étais un vieux du matin qui allait jouer avec sa licence vétéran. Donc oui, plus on avance dans l'âge, moins ça va pour moi.
Oui. Vous, 40 ans, vous avez continué à faire du sport, toujours ?
Toujours, même aujourd'hui. Oui.
Même aujourd'hui ?
Même aujourd'hui.
Bon, mais ça va encore alors,
arrêtez,
à 50 ans.
Arrêtez de dire « même ». C'était un piège pour voir si vous alliez le répéter, mais vous auriez pu dire « bah oui, forcément, non, mais ça se voit
». Bruno, est-ce qu'à 40 ans, puisqu'on est arrêté sur cette année 2007, mais pas que, ça peut être 2006, 2008, 2009 et 2010, par contre 2010, je vais y venir justement, mais dans toutes ces années autour de la quarantaine, vous êtes devenu un acteur connu, reconnu, comédien. Donc là, j'imagine que vous êtes obligé, entre guillemets, de beaucoup lire.
Oui, de beaucoup lire les projets qu'on me présente, que ce soit film ou théâtre. Et je lis sans arrêt, mais rarement des choses que je décide de lire moi. C'est toujours des choses qui me sont proposées.
Voilà. Justement, je voulais en arriver là. Vous avez du temps à ce moment-là pour lire des choses que vous avez envie de lire, vous, qui soit en dehors de votre vie professionnelle, justement.
J'aurais certainement le temps, mais franchement, quand j'ai fini de lire ce qu'on me propose, parce que lire, c'est pas tout. Il faut apprendre par cœur. Et ça, c'est des moments de solitude très longs. C'est-à-dire que quand les gens voient le résultat, en amont, il y a un travail fou. Et l'apprentissage par cœur, ça demande du temps et du temps et du temps. Donc, quand ce travail-là est terminé, j'ai envie de m'aérer, moi. Faire du sport, aller à la boxe, jouer au foot. Mais je n'ai pas envie de prendre un livre et lire.
Est-ce que vous avez le temps dans ces années-là, on reviendra plus tard sur la suite, mais est-ce que vous avez le temps dans ces années-là, justement, de voir aussi ce que font vos camarades au niveau du cinéma, au niveau du théâtre ? Est-ce que vous avez le temps de...
J'ai le temps, mais je n'ai pas envie d'y aller.
D'accord.
Je vais rarement au théâtre, rarement au cinéma. J'aime mieux aller à un gala de boxe, par exemple, voir un match de foot. C'est, oui, sortir un peu de mon métier, comme je vois beaucoup plus mes amis d'enfance.
Bien sûr. Qui restent...
Mais oui, eux, ils me connaissaient avant.
C'est les vraies amitiés.
C'est pas simplement les vraies amitiés, c'est des amitiés qui ont de l'âge. Voilà, après, il peut y avoir des amitiés aussi fortes qui naissent après, et j'en ai eu beaucoup. Mais en tout cas, pas seulement dans le domaine des comédiens.
Alors, 2010, pourquoi je voulais en arriver à 2010 ? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau dans la carrière d'acteur, de comédien de Bruno. En 2010, il y a un album. Un album de chansons, on vous écoutera d'ailleurs tout à l'heure. C'est arrivé comment ?
C'est arrivé...
C'était une envie ?
C'était encore une fois le hasard. Il y a toutes ces années, enfant, où je chante, où j'aime... Au conservatoire, nous avons une classe de chant. J'aime beaucoup la classe de chant. Et puis, un jour, je tourne un film avec Johnny Hallyday. On devient amis. Et un soir, on est tous les deux dans son restaurant. Il n'a pas le moral. Et il me parle comme ça du temps qui passe, de la mort. Hein. Et on s'embrasse pour se quitter. Et il me dit... Écoute, j'aimerais bien une chanson qui ressemblerait à notre conversation. Et alors, en rentrant chez moi à pied, je pense à ça, aux dernières paroles dites. Et j'arrive chez moi et j'ai écrit une chanson qui ressemble à notre conversation. Et le lendemain, on se revoyait.
Alors, je suis désolé, je fais une parenthèse. Vous écrivez, là, c'est quelque chose de nouveau. Vous m'indiquez quelque chose que je ne savais pas. Et c'est également quelque chose de nouveau à ce moment-là pour vous ? Vous aviez déjà écrit ?
Non, ben j'écrivais comme ça, des petites choses, mais jamais vraiment pour un projet précis. Et donc j'écris cette chanson et le lendemain, je la mets dans une enveloppe et je vais voir Jojo, il chantait, dans la loge, je lui dis « Tiens, tu liras ça, ça ressemble à notre conversation d'hier ». Et dans la nuit, il m'a appelé, il m'a dit « Je vais la chanter ». Et donc, il l'a enregistré sur un album, l'album qui s'appelle « Le cœur d'un homme », la chanson s'appelle « Ma vie ». Et puis, je me suis mis à écrire d'autres chansons. Et un jour, je me suis dit, il y a pas mal de chansons, je vais les chanter moi-même. Entre-temps, il y a un autre chanteur qui s'appelle Alain Leprest, qui me demande de chanter une chanson sur son album. Voilà. Donc, voilà la chanson, et voilà comment c'est venu, en fait. Voilà. Et ça fait vraiment plaisir à ma maman, ça, que je chante. Elle adore. Elle adore.
Et depuis cet album, en 2010, vous n'avez pas eu envie de recommencer, de refaire un album ?
Alors, moi, je suis très long. J'ai fait un album. Je suis allé en studio, j'ai enregistré. Mon papa est parti. Et pour moi, les chansons n'avaient plus de sens. J'ai réécrit des chansons. Et en ce moment, l'album est en train de se faire. Et il sortira prochainement.
Ah, donc Bruno nous annonce là la sortie prochainement d'un deuxième album.
Ouais, ouais, ouais.
On a le titre déjà ?
Oui, je crois qu'il s'appellera « C'était quand ».
D'accord. C'était quand ?
C'était quand. Bah,
écoutez, on l'écoutera avec, avec grand plaisir. Est-ce que Bruno a la notion du temps ?
Du temps qui passe surtout. Oui, hélas. Oui, oui. Vous savez que chaque seconde qui s'écoule, là, c'est un pas de plus vers...
vers la sortie.
Vous le savez, hein,
oui,
je ne vous l'apprends pas.
Non,
et moi,
non,
j'ai très fortement cette notion. Donc, bien sûr, vous regardez des photos, vous dites « Oh là là, oh là là, comme il a changé, comme j'ai changé ». Oui, non, la notion du temps qui passe, oui, malheureusement, je l'ai, oui.
Il vous arrive de... Si, par exemple, à la télévision...
Jamais.
Jamais.
Je regarde mes films, jamais.
Jamais.
Jamais, jamais, jamais. Il y a même des films que j'ai tournés que je n'ai jamais vus.
D'accord.
Une fois que j'ai tourné, si je ne suis pas là à la projection d'équipe, si je travaille ou quoi, après, je n'ai pas l'élan pour aller voir le film au cinéma.
Et avec un œil de spectateur. Ça ne vous intéresse pas ?
On n'a jamais l'œil du spectateur quand
non.
on joue dans un film. On a...
Vous ne pouvez pas vous...
Non, on le voit moins bien le film que quelqu'un d'autre. Et ensuite, si on nous donne un DVD, je ne vais pas le regarder chez moi. Le meilleur est passé, le tournage. Mais quand je peux aller à la projection d'équipe, j'y vais.
En tant que spectateur, vous, qu'est-ce que vous aimez aller voir comme film ? Je ne parle pas des vôtres, ça j'ai bien compris.
Non, mais je n'ai pas de genre favori, vous savez, parce que... Bon, oui, il y a peut-être un genre que je ne vais jamais voir, par exemple, sont les films de science-fiction.
D'accord.
Que...
Donc Star Wars, vous n'avez pas vu ?
Non, j'en ai jamais vu, hein. C'est
D'accord.
pas mon truc. Ça
ne
m'intéresse pas. J'aime beaucoup les documentaires. Voilà, ça, j'aime beaucoup. Je crois que j'aime plus les documentaires que la fiction.
Quel est le dernier film que vous avez vu au cinéma ?
Alors, je vais souvent à Paris à la Filmothèque et je vois des vieux films. Et le dernier, je ne sais plus ce que c'était... Mais peut-être Les Portes de l'Enfer avec Pacino. Oui, peut-être.
Oui,
ça.
Je ne connais pas celui-ci.
Ouais. Les Portes de l'Enfer.
Donc, toujours, on reste dans ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous êtes nostalgique
et
vous aimez les vieux films.
Oui, oui. J'aime bien les films où je ne connais pas quelqu'un toutes les 10 secondes sur la pellicule.
Oui, d'accord, je comprends. Je comprends.
J'aime,
pour
j'aime,
vraiment,
j'aime
là,
ça.
Vous avez vraiment l'œil du spectateur, lambda.
Ouais, ouais. Et j'aime les films. Dernièrement, Je suis allé voir un beau spectacle. Rocco Femmia avec le spectacle sur les musiques de films. Et là, ce qui était touchant, alors j'avais tout le temps envie de pleurer parce que pour moi, c'était les films que je voyais avec mes parents dans la cuisine, mes parents et mes frères. Et on se battait pour les programmes. Pour, et là, oui, c'est très touchant. Ouais.
Oui, je comprends. Petite parenthèse, j'étais aussi au spectacle. Je ne suis pas italienne. J'ai vu la plupart des films et j'ai pleuré aussi au spectacle. C'était vraiment magnifique. Je vous propose d'écouter justement un de vos morceaux de cet album de 2010. Alors, le morceau choisi s'appelle « Checké, checké, checké ». On vous écoute, Bruno.
Checké, 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 mettre les voiles. Checké, 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 en avant tout. Checké, 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 prendre la route. Vive l'eau bleue, l'oxygène. Non à la grisaille, ne plus dire amen. Se défaire de nos fers pour pouvoir fouler la grande sphère. Tchiki tchiki tchiki, mettre les bouts. Tchiki tchiki tchiki, sortir du trou. Checké, 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 tailler la zone. Checké, 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 fuir l'hexagone. Quitter nos vies rétrécies. Fausser compagnie à tous nos soucis. Je chercherai sans trêve ce monde que j'ai croisé dans mes rêves. Tchiki tchiki tchiki, tous en avant. Tchiki tchiki tchiki, foutre checké, 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 go tous sans sel. Checké, 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 se faire la belle. Checké, 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 moi et la checké, 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 moi.
Merci Bruno.
Merci à vous.
Bruno, aujourd'hui vous avez 50 ans.
Oui.
51 le 24 mai, je crois.
Ne remuez pas le couteau dans la plaie.
Si, si. Bruno, aujourd'hui. Alors, d'abord, on a la chance de vous avoir à Toulouse. Vous allez nous dire pourquoi vous êtes à Toulouse. Et puis, j'aimerais savoir votre actualité. Et puis. En fait, deux choses. Votre actualité, bien sûr, vous allez, donc vous avez dit qu'on a la chance d'avoir un nouvel album bientôt. Oui. Je pense qu'il y a d'autres choses, vous allez nous expliquer. Mais j'aimerais aussi le Bruno d'aujourd'hui, ce que vous ressentez à l'intérieur.
Le Bruno d'aujourd'hui, c'est... oui, alors peut-être vous pouvez penser que je reviens toujours sur les mêmes choses, mais... Dans la vie, on tourne autour de quelques pôles comme ça, et puis on n'en sort pas, en fait. Vivre, comme disait, pour citer Johnny Hallyday, il disait « vivre, c'est insister ». Bon, il y a quelque chose comme ça. Mais 50 ans, j'ai plus mon papa, c'est une perte de sens. Heureusement, ma maman est là, mes deux frères sont là. Mais c'est une perte de sens. Il y a des choses que vous faites inconsciemment pour certaines personnes, et quand elles sont plus là, vous dites à quoi bon. Par exemple, je vais moins jouer au foot avec mes copains d'enfance, dans une équipe avec un arbitre tous les dimanches, on monte de division ou on descend. Parce que le sens de ça, c'était de partir de la maison, prendre mon sac, que mon père me dispute, mais de manière gentille. Il disait, non, tu vas encore être à la bourre, là. Tu es toujours à train de préparer les choses au dernier moment, là. Et dit, mais oui, papa, j'arrive. Oui, mais tu vas être en retard. Bon. Et ça, partir de chez moi, vivre ça avec mon papa, prendre la voiture, lui à côté de moi, débarquer, moi sur le terrain, lui dire, papa, arrête, tais-toi un peu. Lui qui engueule l'arbitre. Aujourd'hui, si je veux jouer au foot, il n'y a plus ça. Et je ne vois que le manque. Je n'entends que l'absence. Donc voilà. Et ça, c'était des moments importants de ma vie. Vraiment. Dans une semaine, le moment du foot avec mon père, c'était capital. Capital. Je peux ne pas jouer dans tel film, ne pas jouer dans telle pièce. Ça me fera moins de mal que ne pas aller au foot avec mon père. Bon, voilà. Alors, évidemment, je pense à lui tous les jours. Je pense à lui tellement que il y a quelques temps, bon, je ne vais pas vous raconter tout l'historique, mais toujours avec Rocco Femmia, avec lequel on jouait à Paris un spectacle, Les Émigrés, avec le groupe Incanto. Le matin, il y avait des colloques. Et puis, avec l'accordéoniste Grégory Daltin, on a fait une lecture des Ritals de Cavana. Et alors, la salle a été enthousiaste. Et puis, Rocco, après, avec l'ambassadeur d'Italie, a dit « Mais pourquoi pas en faire un spectacle ?» Et ce spectacle-là, pour moi, c'est aussi l'histoire de mon père. Et ça, c'est un spectacle qui explique ma présence en ce moment à Toulouse, parce que je répète, avec mon frère Mario, dans une belle salle du Goethe-Institut, d'ailleurs, que c'est un plaisir de répéter là-bas. Et ça va aboutir à un spectacle qui sera joué pour la première fois le 30 septembre, sur la scène nationale d'Albi. Donc, et pour moi, c'est... Voilà, ça, c'est concret. Ça a un lien direct avec mon papa, mais ça a un lien direct aussi avec tous ces émigrés, quels qu'ils soient des émigrés politiques, économiques, puisqu'aujourd'hui, on fait la différence, comme s'il y avait une échelle dans la souffrance humaine. Hein. Donc, voilà, ça résonne aussi. Pour moi, et c'est important que la parole de Cavana résonne aujourd'hui.
Alors, j'ai eu la chance d'assister à la lecture, donc je peux en parler. Je vous ai vu, c'était extrêmement émouvant. C'était pas joué, c'était vécu. Je crois qu'on peut pas le dire autrement, et on sentait que ça venait des tripes.
Oui, et là, je crois que c'était une lecture. Alors, c'était certainement, j'espère, une belle lecture. Là, ce sera complètement autre chose. Ce sera un spectacle. Ce sera une pièce de théâtre. Et donc, ça me tient à cœur. C'est-à-dire, surtout vu par les sensations de Cavana. C'est-à-dire que c'est à la fois, ça peut être grave, mais c'est émouvant. Et c'est drôle.
Il y a des moments très drôles.
C'est très drôle, la langue de Cavana. Et c'est... Lui sait parler comme personne des gens de peu. J'y retrouve mes parents, des gens modestes, des petites gens qui font des petites choses avec leurs mains. Et tout d'un coup, Cavana va nous décrire ça, on se régale à le lire, à l'entendre. Donc ça, c'est mon projet le plus important. Le plus important.
Donc, une première de ce spectacle, vous venez de nous l'indiquer, le 30 septembre à Albi. Oui. Et avec d'autres salles et d'autres dates, j'espère
bien
de
sûr,
tout cœur à
sûr,
suivre.
Une tournée qui commence là, on en est à une dizaine de dates. Ça va encore, ça tombe tous les jours. Donc,
Toulouse.
Oui, Toulouse, bien sûr.
Bon, super.
Monsieur donc, Fémy s'occupera de ça.
Oui, on appellera Monsieur Fémy pour avoir la chance de venir, ça, aucun doute.
Voilà donc ce spectacle. Un film qui sortira à la télé, que j'ai tourné avec Jacques Weber, qui s'appelle Meurtre A. Un autre téléfilm que je vais tourner en rapport avec la vie de Victor Hugo, c'est pour ça que j'ai la barbe en ce moment. Un autre film pour le cinéma.
Vous allez jouer Victor Hugo ?
Non, parce que c'est Victor Hugo jeune, donc moi je suis foutu.
D'accord.
Je jouerai le frère du président de la République de l'époque. Un autre film, on m'a proposé un très beau rôle principal pour le cinéma. Une adaptation d'un roman de Houellebecq, Plateforme. Et puis,
qui démarre bientôt aussi ?
Non, pas bientôt. Pour l'instant, on est dans la construction du film. Vous savez, un film, c'est long à monter, plus qu'une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, Don Juan de Molière avec Denis Lavant. Et puis là, je vais continuer la tournée d'une pièce, L'Attentat, que je vais jouer les 4 et 5 avril, je crois, à Auxerre. Cet album qui sort, et puis plein de lectures un peu partout. Mais surtout, pour moi, là, en ce moment, les Rital, c'est très important, quoi. Vraiment.
Oui,
vraiment.
C'est un petit peu aussi un retour aux sources, bien sûr.
Oui.
Bien sûr. Vous êtes à Toulouse depuis combien de temps ?
Ça fera 8 jours demain. Nous reviendrons répéter en juin. Ensuite, il y aura une résidence en Normandie pour le spectacle et une autre résidence à Albi. Puis, ce sera le jour de la première, le 30 septembre.
Donc, en plus, c'est pas la première fois que vous venez à Toulouse. C'est
non,
une ville que vous appréciez. Vous avez eu le temps de la découvrir.
Je vais revenir aussi en juin pour le marathon des mots. On m'a déjà appelé, là, c'est déjà programmé.
Super.
Donc en juin, malheureusement, on m'a proposé de faire 4 jours de lecture à la suite, comme 4 épisodes. Je ne peux pas le faire. Donc j'aurai le premier jour de lecture et après, je devrais m'en aller justement dans un festival pour faire une lecture des Rital.
Alors, malheureusement, il ne nous reste que 5 petites minutes et j'ai plein de questions. Alors, je vais essayer de... Je vais essayer de faire vite. Oui, je vous demandais, vous aimez Toulouse ? C'est une ville que vous avez eu l'occasion de découvrir ?
Beaucoup. Alors, je la découvre bien, cette ville, avec le marathon des mots.
Oui.
Le marathon des mots avec lequel nous lisons dans plusieurs endroits différents.
Oui.
Donc, ça, c'est un plaisir à chaque fois de découvrir des endroits. On peut lire en plein air aussi au marathon. C'est vraiment super. Ouais.
Oui, en plus, c'est, au mois de juin, il fait un temps magnifique à Toulouse. Ouais. Donc, on est super bien. Et je voulais savoir si vous continuez à partir en vacances en Sardaigne.
Pour l'instant, non. La dernière fois que je suis allé en Sardaigne, c'était... Mon papa était encore vivant. C'était pour y recevoir un prix à Castel Sardo. Et on m'a remis un prix pour ma carrière en tant que Sarde, qui fait connaître la Sardaigne ailleurs dans le monde. Et je suis arrivé en Sardaigne, je suis allé avec un ami, Fulvio, et je n'ai pas arrêté de pleurer. C'était gênant, je ne pouvais pas me retenir, parce que je me disais, j'avais menti à mon papa, il ne pouvait pas se déplacer, j'avais dit que j'allais recevoir le prix à Paris, et qu'il ne soit pas avec moi... La Sardaigne, elle avait pas le même goût. Je sentais les odeurs, je me baignais, mais mais il y avait plus mon papa qui me mettait la tête sous l'eau, il y avait plus mon papa qui mangeait le fromage, qui buvait son coup de vin, c'était pas pareil. Et donc là, tous les ans, hein, j'ai un ami qui part là-bas en vacances, Fulvio, il me téléphone, il me dit allez, viens cette année. Tous les ans, je dis oui, puis j'y vais pas. Non.
Est-ce que vous considérez avoir gardé une grande part en vous du petit garçon que vous étiez ?
Mais c'est lui qui a la place la plus importante. C'est lui. Et d'ailleurs, dans les rituels de Cavana, ce qui est très émouvant, c'est que ça passe de l'adulte qui a un retour, et tout d'un coup, cet adulte redevient le petit garçon. Il dit papa,
oui.
Mais papa, pourquoi oui. tu fais comme. Et il est en relation avec le père direct. Voilà. Et donc, je crois que le spectacle sera très émouvant aussi par ce côté-là. Et bien sûr, pour les Italiens, mais pour tous les autres, pour les immigrés et ceux qui ne sont pas immigrés, pour ceux...
Tout le monde peut s'identifier. J'ai entendu la lecture, tout le monde peut s'identifier.
Mais oui, rien que par le rapport aux sûr. Parents, rien que retourner dans une maison, le spectacle commence comme ça. Le Cavana revient dans la maison où il a grandi. Il revoit la cuisine, les trois chaises. Et là, ça se met en marche. Et puis, il a des conversations avec le public, mais avec un copain musicien, qui est son copain de toujours, et avec l'ombre du papa, quelque part. Mais ça, vous verrez.
En tout cas, avec tout ce que vous en dites, bon, j'ai assisté au spectacle de la lecture, et je viendrai avec plaisir voir celui-ci, la mise en scène. Et avant cela, on recevra pour un Ainsi va la vie, Rocco Femia, qui viendra aussi,
de ma part.
Qui viendra nous en parler, j'espère vraiment. Merci beaucoup, Bruno.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.